1972, ou l'invention de la radio. Voici Marceau le midi.
Midi 36 minutes, il se passe quoi que ce soit sur la route. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il y a une intervention des services de police de la Ville de Québec dans le secteur de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Exactement. Si vous pouvez éviter le secteur, ça serait une bonne chose. Puis sinon, on va vous le faire éviter, le secteur. Dans la rue Kildare, en fait, ça fait un petit bout qu'on a plusieurs voitures de police. La Sûreté du Québec est en opération. Il y a eu des évacuations préventives. Il en reste quelques-unes dans le dit secteur. C'était fermé jusqu'à temps qu'on arrivait là, à l'entrée de Sainte-Brigitte. Donc, si vous pouvez éviter tout cela, c'est le conseil qu'on vous donne en ce moment. Bon, le résumé de la situation, je ne peux pas vous le donner au complet parce qu'on est en intervention, mais assurément, il y aurait une maison contrôlée par les policiers en ce moment, puis on voudrait évacuer tout le monde juste pour s'assurer que tout se passe bien.
Alors que 2,41 à sac aurait suffi. Tu laisses ça à la porte, tu cognes?
Ce commentaire n'engage que Yannick Marceau.
Tu laisses les 41, t'attends 3-4 heures, puis après ça, tu viens le rechercher. Il dort comme un bébé.
Ce commentaire n'engage que Yannick Marceau.
Midi 37, on va aller rejoindre notre ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut, Nick.
Bon, midi, tout le monde, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Très content de te jaser, mon ami. Quelle grosse nouvelle aujourd'hui qu'on a appris sous la plume de Michel Girard dans la section Opinion. Québec qui a dépensé 3,6 milliards de dollars pour renflouer un fonds gouvernemental. On parle du Fonds du développement économique qui a été lourdement déficitaire lors des 5 dernières années d'exercice financier. Et on dit que le problème avec ce fonds-là, c'est que chaque année depuis 5 ans, le dit fonds ne fait pas le moindre profit avec ses milliers de placements et de prêts effectués dans les entreprises. Au contraire, ils perdent de l'argent. Donc, on vient de dépenser un 3,6 milliards de dollars supplémentaires pour renflouer ce fonds-là. C'est assez gênant.
Ben oui, c'est gênant. Puis en même temps, quelle surprise, parce qu'on apprend aussi à quel point le rendement chez Investissement Québec qui n'est pas tout à fait au rendez-vous. On voit aussi le rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est pas tout à fait non plus très reluisant quand on regarde ce qui se passe avec notre bonnet de laine collectif. Puis là, effectivement, comme tu le mentionnais, le fameux FDE, ou le Fonds de développement économique du Québec. Tu sais, c'est le fameux fonds, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, parce que le gouvernement du Québec a bien des fonds. On a le fonds bleu, le fonds vert. On a le fonds pour les municipalités, puis on a le fonds pour le développement économique.
Ils ont le fonds de nos poches aussi?
Oui, ils l'ont à peu près. Et écoute, ça, ce fameux fonds-là, ben, c'est là-dedans qu'ils mettent un peu de ce qu'ils viennent ramener dans nos poches, justement, pour faire des investissements, on dit investissements entre guillemets, en ciblant des entreprises stratégiques. Donc, on se souvient, entre autres, on a parlé pas mal les dernières semaines, Northvolt, ben, de l'argent qu'ils ont reçu, le fameux 510 millions de dollars, ça venait justement de ce fameux fonds-là. Donc, c'est un fonds qui est essentiellement utilisé pour garrocher de l'argent sur des entreprises qu'on va subventionner dans le but de faire du développement économique. On se rappelle de ce que François Legault a dit là, la semaine dernière quand il défendait un peu sa manière de gérer l'économie justement à travers ce fameux fonds-là en disant, ben écoutez tout le monde, c'est normal. Quand on développe l'économie, on fait un peu ça comme avec un portefeuille. On prend un certain niveau de risque puis c'est la moyenne au bâton qui compte. Sauf que là, on prend la moyenne au bâton puis on regarde le fonds de développement économique, 3,6 milliards, qu'est-ce que ça a coûté, ne serait-ce qu'aux contribuables au courant des 5 dernières années, avec tous les déficits qui ont été accumulés dans ce fonds-là par notre cher ex-super ministre Pierre Fitzgibbon. Donc, clairement que la caisse a été vidée à plusieurs reprises. On se doute que ça a dû finir dans des entreprises à droite et à gauche dont on n'a pas tout à fait, la liste complète parce qu'il y en a beaucoup là-dedans que les contrats ont été faits, ils sont caviardés ou sinon on n'aura pas les résultats exacts le montant complet avant une X période. Donc, ceci étant dit, il y a beaucoup de manque de transparence et de se dire que finalement, ce fonds-là est renfloué comme si rien n'était et qu'on va continuer à l'utiliser pour faire d'autres investissements. On se rappelle, François Legault l'a dit lui-même que investir dans la filière électrique, c'était pas terminé. Il restait des milliards à mettre là-dedans d'ici la fin de son mandat. Et ça va essentiellement passer par ce fameux fonds qui est déficitaire, qui a un très faible rendement et qui a été clairement affecté par le passage de Pierre Fitzgibbon en tant que ministre de l'Économie. Ça le démontre clairement. On voit juste au cours de l'exercice 2019-2020, on commence 1,8 milliard en partant en déficit et ça s'est juste pas amélioré depuis. Donc, c'est une autre démonstration à quel point trop souvent les fonds du gouvernement, parce que ça, c'est On regarde souvent les dépenses, on regarde les ministères, mais on regarde rarement ce qui se passe dans les différents fonds. Et on a une expression en anglais qui s'appelle « slush fund ». C'est-à-dire des fameux fonds qui servent à peu près à tout, essentiellement. Donc, on va créer un fonds pour l'environnement, par exemple le fonds vert. Puis, on se ramasse avec de l'argent qui est garoché dans n'importe quoi, sauf nécessairement pour l'environnement. Dans le fonds du développement économique, on pourrait ne pas être surpris de découvrir qu'il y a peut-être des dépenses là-dedans qui n'ont pas mené au développement économique du Québec. Ça va demander beaucoup de fouilles pour qu'on aille au fond des choses. Puis, clairement, que quand on parle de 3,6 milliards, c'est beaucoup de projets. Malheureusement, c'est le manque de transparence qui fait en sorte qu'on a discuté à savoir où est-ce qu'on s'en va avec ce fonds-là et combien ça va continuer à nous coûter au courant des prochaines années.
Le Fonds du développement économique, ce qu'on appelle la FDE, c'était sous la gouverne de l'ex-super ministre Pierre Fitzgibbon. Le montant des pertes financières qu'il a subies depuis qu'il est en place, 2019-2020, tu l'as dit, presque 2 milliards en fait, 1 milliard 780 millions. En 2020-2021, vous allez me dire, c'est la pandémie, 474 millions. 2021-2022, 194 millions qu'on a perdu. 2022-2023, 475 millions. 2023-2024, 658 millions qu'on a perdu. Et ça, c'était sous la gouverne de Pierre Fitzgibbon. Puis hier, je ne sais pas si tu as écouté, tout le monde en parle. L'excellente Christine Fréchette qui était là, qui est la nouvelle super ministre. Tu sais, on comprend maintenant pourquoi elle a été mise en place par François Legault. Il y avait besoin d'un caniche de service pour répéter ses maudites niaiseries. Elle a dit que le Québec allait se souvenir pendant longtemps des bienfaits du passage du super ministre Pierre Fitzgibbon en politique, alors que jusqu'à maintenant, c'est un fiasco depuis le début de ses mandats.
Ben, elle a raison, Mme Fréchette. C'est vrai qu'on va se rappeler très longtemps de l'héritage de Fitzgibbon, mais peut-être pas pour les raisons qu'elle pense, en fait.
Exact.
Surtout pour ce que ça va nous avoir coûté au final, pour le peu que ça nous a rapporté. Et oui, c'est fou à quel point, tu sais, je vais pas non plus m'acharner sur notre cher Fitzgibbon qui a enfin découvert l'amour et qui a quitté la politique pour les meilleures raisons du monde. Je souhaite tout le bonheur. Non, mais honnêtement, en toute bonne foi, c'est tant mieux si il a quitté pour les bonnes raisons.
Quand est-ce que tu nous quittes, Nicolas, pour l'amour, toi?
Hein?
Tu nous quittes quand pour l'amour, Nick?
Ben non, je quitterais pas la politique ou je quitterais pas ma job pour l'amour non plus, mais je peux comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un va, comme à son âge surtout, décider de prendre un peu ses distances et se concentrer sur les choses qui ont le plus de valeur. C'est beau à voir, mais maintenant que c'est dit pour Fitzgibbon, je veux dire, sans trop m'acharner sur le personnage, quand on regarde par exemple son passage avec, parce qu'Investissement Québec, on le sait, c'est un autre bras du ministère de l'Économie. On a quasiment doublé les effectifs, on a augmenté les budgets opérationnels comme ça n'a pas de sens, et les dépenses farfelues plus les bonus, un des pires rendements qu'il n'y a pas pour un fonds d'investissement, pas juste au Québec, mais possiblement en Amérique du Nord. Donc, ça donne une idée à quel point, des fois, on pense que nommer quelqu'un super ministre, puis, et surtout avec son background, que ça va donner des résultats exemplaires, puis finalement, on risque peut-être de payer la note pour les 50 prochaines années, du moins si on se base sur les commentaires de Mme Fréchette. J'espère qu'elle va bien faire les choses. J'ai essayé de communiquer un peu avec son ministère pour savoir ce qui en était, entre autres, par rapport au projet de loi 69, par rapport aussi aux autres promesses qui avaient été faites par Fitzgibbon avant son départ, notamment l'abolition du prix plancher sur l'essence, ce genre de choses-là. Apparemment, ça va se faire. C'est déjà en travaux. Donc, il y a quand même un leg de Fitzgibbon qui est pas si mauvais que ça. Mais pour le reste, pour tout ce qui a été des dépenses, qui a été aussi de l'augmentation, des effectifs dans les différents fonds, puis aussi des déficits qu'on a dégagés là-dedans, c'est problématique, puis ça, on n'a pas fini de payer pour.
Hey, Investissement à Québec, il y avait eu un rendement de 2,4 %, alors qu'ils ont dit, oh, il y a des top guns qui sont là, on va augmenter leur salaire. C'est quoi, c'est 2,4 le rendement? Puis si tu avais acheté des obligations d'épargne gouvernementale, ben, du Québec, en fait, Épargne Placement Québec, ça t'aurait donné un 4,8.
Ben oui, littéralement. Je veux pas être de mauvaise foi, mais mettons que Investissement Québec, tu pourrais remplacer littéralement l'organisation au grand complet par une personne qui appuie sur un bouton rouge pour acheter de l'or une fois de temps en temps, et tu aurais fort possiblement un meilleur rendement. Là, c'est-à-dire que Investissement Québec, on comprend qu'ils ont une mission plus large que juste d'investir pour du rendement, mais en même temps, il va falloir quand même qu'ils se décident à savoir là, c'est quoi leur véritable mission, parce que des fois, quand je regarde un peu les ajustements de la Caisse de dépôt et placement, puis la mission dont ils sont donnés, ils disent qu'ils misent aussi sur le développement à long terme, le développement durable, puis que le rendement n'est pas nécessairement ce qui est visé. OK, c'est beau, mais là, vous prenez de l'argent des contribuables. On parle carrément d'un pari qui est fait, surtout quand c'est Investissement Québec, parce que c'est beaucoup plus à travers des investissements, alors que la Caisse de dépôt et placement font beaucoup plus du prêt, de la dette convertible, des garanties. Donc, différents mécanismes qui sont un peu plus sécurisés, on va dire ça de même. Mais n'en reste qu'au final, c'est de l'argent qui est trop souvent parié. Puis on le voit encore aujourd'hui sous la plume de Michel Girard que avec M. Fitzgibbon, parier l'argent des contribuables, c'était une pratique courante depuis bien avant qu'on parle de la filière électrique puis de Nordvolt et compagnie. Donc oui, on n'a pas fini de payer pour.
C'est incroyable. C'est des canards boiteux, puis ça sert à créer des jobs. Puis c'est pas des petits jobs, là. C'est pas du 50 000, 60 000, 70 000 par année. C'est des gens qui sont payés des centaines de milliers de dollars puis qui sont pas capables d'avoir un rendement que vous et moi serions capables d'avoir avec des petits placements chez Desjardins. Là. C'est un peu gênant.
Mais mettons, toi, tu te fais offrir cette job-là, Yannick, là.
Oui.
Tu la refuses-tu? C'est la faute à qui, officiellement, la personne qui refuse ou pas?
C'est peut-être parce que je suis pas né dans Watt, là, puis j'ai pas mal tout le temps manqué d'argent quand j'étais jeune, puis qu'aujourd'hui, ça va bien. Là, puis, mais de recommencer à zéro, pour moi, c'est pas si difficile que ça. Si j'ai une job de top gun, puis je suis rémunéré comme un top gun, puis je me rends compte que je suis un hostie pourri.
T'as pas les compétences.
Je me connais assez pour savoir que je sac mon camp.
Ou qu'on t'utilise pas à tes meilleures compétences.
Ouais. Je m'auto-démissionne. Je sac mon camp. Ça va au-delà de mes compétences.
Si j'ai pogné le principe.
J'ai pogné le principe de Peters, puis je ne suis pas capable d'avoir un meilleur rendement alors que les Québécois me rémunèrent pour avoir un bon rendement. Salut, je dégage, c'est tout.
Puis dans l'autre sens aussi, si on prend quelqu'un pour être finalement la guenille, puis pour faire arriver des affaires ou avoir l'air de, ou pour dire la même chose que le premier ministre, tu veux-tu être la guenille de quelqu'un?
Non, pas du tout.
Ou tu veux-tu être utilisé à tes sous-compétences? À un moment donné, tu te rends compte que tu stagnes, là. Mais que,
c'est le principe de Peters. Une fois que tu es grimpé dans la hiérarchie et que tu n'es plus capable de stepper up, tu t'en vas.
Je te parle du contraire aussi. Dans les deux sens, ça ne devrait pas exister. Un, mais en politique surtout. Si tu n'es pas capable d'atteindre ces compétences-là, mais si tu as plus de compétences et on te demande de les restreindre pour justement suivre un courant de pensée et être payé pour... Exact.
Chaque mon camp. Je pense que n'importe qui se respecte personnellement, là, à partir du moment où tu n'es pas bon à quelque part, ben tu dis « OK, si je ne suis pas capable de stepper up, je vais aller ailleurs. » Ou admettons que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, comme Nicolas Gagnon, on me dit qu'il devrait gagner 1 million $ par année. À partir du moment où tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, ben tu t'en vas travailler pour quelqu'un d'autre qui va te reconnaître à ta juste valeur. Mais dans le cas des gens chez Investissement Québec, c'est une vraie honte. C'est un canard boiteux. Ils ne sont pas capables de faire mieux que le principal... Le simple épargnant dont je fais partie. Tu comprends?
C'est ça. Ben, surtout que, tu sais, comme tu mentionnais, les fameux hauts fonctionnaires, comme ça, ils ont piqué. Là, je veux dire, quand tu es rendu à la tête d'une agence ou d'une institution comme la Caisse de dépôt ou Investissement Québec ou même que tu es rendu un haut fonctionnaire pour n'importe quelle autre agence, rendu là, je veux dire, c'est aussi le fait que souvent, ces personnes-là sont nommées en pensant qu'on leur a octroyé une mission. Ils sont là pour changer les choses, pour changer la structure, que ce soit Mme Engo là, pour Investissement Québec ou Charles Lémont pour la Caisse de dépôt ou sinon Michael Stavia pour Hydro-Québec. C'est sûr que selon la mission de ces différents organismes-là, c'est normal qu'il y ait un apport de la vision du nouveau dirigeant. Mais dans les autres cas, on s'attend juste à ce que le rendement soit au rendez-vous, qu'il y ait une bonne gestion et qu'au final, ben, que les contribuables soient gagnants grâce aux décisions qui sont prises par ces dirigeants-là. Mais c'est sûr qu'il devrait avoir un petit peu plus de resserrement au niveau des conditions des hauts fonctionnaires. La semaine dernière, j'avais parlé entre autres de leur fameux bolide qu'on leur paye à coups de dizaines de milliers de dollars par année, voire même plus. Des voitures de fonction qui ne devraient pas avoir lieu pour des gens qui font plus d'un demi-million par année. Tous les avantages dont ils disposent, les severance packages. Donc, c'est sans oublier aussi les bonus qui s'octroient et qui ne sont pas nécessairement mérités. Donc, il y a plein de conditions d'emploi qui sont proches de ces hauts dirigeants-là qui font aucun sens. Et la raison pour laquelle ils en bénéficient, c'est qu'on n'arrête pas de dire, ben, dans le privé, c'est le même, donc dans le public, ça devrait être comme ça. Mais il faut rappeler que c'est deux mentalités différentes. La fonction publique et la fonction privée, c'est pas les mêmes cultures et c'est normal. Quand les gens vont dans la fonction publique, peu importe l'institution, ils sont là pour servir. Ils sont là pour servir le public, les bénéficiaires, les contribuables, mais ils sont là pour servir le gouvernement et s'assurer de remplir la mission qui leur a été donnée. Puis malheureusement, on voit trop souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on va accueillir des gens du privé dans le public en disant que c'est eux qui vont modifier les choses. On leur donne des conditions salariales qui dépassent l'entendement. Puis après ça, on est étonné qu'après quelques temps, finalement, je veux pas non plus là, faire des accusations diffamatoires, mais on s'en met plein les poches, on s'en va pendant que le rendement ou les résultats sont pas du tout au rendez-vous. Tu sais, je donne un exemple flagrant. L'Agence Santé Québec, dont j'ai parlé la semaine dernière, justement à cause du fameux bolide qu'on donne à Mme Geneviève Biron pour ses déplacements, ben je veux dire, on sait même pas encore si l'Agence Santé Québec va donner des résultats. On sait pas si ça va améliorer le système de santé au cours des prochaines années. On donne quand même des salaires d'un six chiffres à peu près tous les dirigeants de cette agence-là, puis on parle des gros six chiffres et des avantages, des vacances, tout le kit. Qu'est-ce qui arrive si dans 3-4 ans, on réalise que finalement, l'agence a amené aucun résultat positif? Ces personnes-là vont finir par s'en aller, vont démissionner ou se faire démissionner. Et à la fin de la journée, on va avoir dépensé des millions de dollars en compensation salariale pour des fonctionnaires qui vont avoir reçu une mission assez, comment dire, vague, qui n'auront pas été en mesure de réaliser leur mission. Puis nous, les contribuables, on va avoir payé pour ça. Et ces personnes-là n'auront pas réalisé leur inutilité avant la fin de leur mandat ou avant même qu'on ait décidé de tirer la plug. Donc, trop souvent, c'est des situations dans lesquelles on s'est retrouvé au Québec, puis j'ai malheureusement l'impression qu'on va répéter cette situation-là à plusieurs reprises. Il y a Mobilité Infra qui va bientôt voir le monde, si c'est pas déjà le cas. Donc, d'autres agences, d'autres organismes, d'autres institutions, où est-ce qu'on va pas essayer de miser pour le rendement, de miser pour mieux servir les bénéficiaires puis les contribuables, on va juste plutôt s'en mettre dans les poches.
Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, je voulais discuter avec toi des Kings de Los Angeles qui, dans les prochains jours, seront de passage à Québec. Est-ce qu'on va avoir un retour sur notre investissement?
C'est une bonne question. Puis la réponse officielle, c'est non. Parce que, disons qu'un retour sur investissement pour une subvention dans un événement sportif, ça n'existe pas, malheureusement. On sait, là, je pense que c'était en mars ou c'était l'année dernière, je ne sais pas exactement. Je pense que c'était plus l'année dernière qu'ils ont fait l'annonce que les Kings de Los Angeles allaient arriver à Québec, justement, pour les deux matchs pré-saison qui auront lieu, si je me trompe pas, ce jeudi et ce vendredi au Centre Vidéotron. On faisait miroiter des retombées économiques en disant c'est pas grave, si on donne 7 millions de dollars à GSF pour la tenue de l'événement sportif, c'est correct. Ça va revenir, les gens vont y aller, on va vendre des billets, puis au final, on va rentabiliser ces 7 millions de dollars-là. De un, je dirais que la plupart des économistes dans le monde sont en total désaccord avec cette conclusion-là. Je pense que 90% des économistes, la dernière fois que j'ai vérifié, qui s'opposent à l'octroi de subventions à des événements sportifs, des complexes ou des stades, sur la prémisse que ça ne rapporte aucune retombée économique positive pour les communautés. De deux, je veux dire, on peut regarder aussi la manière qu'on a octroyé le 7 millions. On essaie d'attirer une équipe milliardaire du nom des Kings de Los Angeles à Québec. Et on est peut-être une des seules places en Amérique du Nord qui a pris l'argent des contribuables pour attirer les Kings de Los Angeles. Petit rappel, il y a des matchs pré-saison qui ont lieu dans d'autres villes nord-américaines où est-ce qu'il n'y a pas d'équipe de la LNH. Entre autres, on a Wichita au Kansas, où est-ce que les Blues de Saint-Louis ont déjà joué. Il y a aussi les Coyotes de l'Arizona qui vont jouer à Independence au Missouri. Et on a aussi, encore une fois, les Blues de Saint-Louis qui vont jouer à Des Moines en Iowa. C'est trois villes où est-ce qu'il n'y a aucune équipe sportive, aucune équipe de la LNH plutôt. Donc, c'est pour ça qu'on y tient des matchs pré-saison. Et dans aucune de ces municipalités, j'ai vérifié pour les trois d'entre elles, dans toutes les archives publiques des trois États, et aucun dollar des contribuables américains n'a été mis dans la tenue de ces événements sportifs. Puis même, je peux aller plus loin encore, l'année dernière, il y a eu un match qui a été tenu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, également un match pré-saison de hockey, et aucun dollar des contribuables n'a été investi dans ce match-là. Mais nous, à Québec, malheureusement, on est la seule place qui va avoir pris cette décision-là. Il y a quelques jours à peine, et si je me trompe pas, il y a un article de la presse qui nous mentionnait que pas loin de 20% des billets n'étaient toujours pas vendus. Donc, on s'entend que si on est pour nous parler de retour sur investissement pour les contribuables, il faut déjà que ce soit plein à craquer. Ça, c'est le strict minimum. Puis on n'est pas parti pour ça. Puis de deux, le meilleur retour pour les contribuables, ça aurait été de ne pas utiliser leur argent et de littéralement juste laisser le privé se charger de l'événement, comme ça a été le cas partout en Amérique du Nord, sauf malheureusement à Québec.
Puis surtout que le Canadien a dit, ben nous autres, on y serait allé à Québec.
Oui, il y a aussi, effectivement, il y a aussi le fait qu'il y a juste une équipe de hockey à Montréal qui aurait pu y aller. Donc, c'est
puis les Kings qui ont dit qu'ils seraient venus même gratuitement, tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là.
Ben, il y a beaucoup de choses, mais en même temps, l'équipe, est-ce qu'elle serait venue gratuitement? Peut-être pas. Il y aurait eu dans la mesure où est-ce qu'il y aurait eu des faits qui auraient été couverts, mais est-ce que ça aurait dû être couvert par la Ville de Québec ou même par le gouvernement du Québec? Je pense pas.
Mais c'est qu'il n'y aurait pas eu de subvention, mais les billets payés au Centre Vidéotron, il y aurait une partie qui serait allée aux Kings, puis ça, ils ont comme dit en deux cracks que oui, ils l'auraient accepté, tu sais.
Ben c'est ça, c'est un peu ça. Effectivement, pour le Canadien de Montréal, c'est un petit peu, comment dire, c'est ambigu. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont démontré un intérêt pour le match. Est-ce qu'ils auraient accepté quand même s'il n'y avait pas eu de subvention? On n'a pas toute l'histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont finalement pas été retenus. Donc, ça laisse pas mal le Canadien sur la glace pour l'instant. Mais il n'en reste qu'on sait qu'il y avait des alternatives. On sait qu'il existe des endroits ailleurs où est-ce qu'on a pu tenir des événements sportifs sans avoir à mettre de l'argent des contribuables. Ça aurait pu se refaire une nouvelle fois à Québec. Tu sais, malheureusement, c'est trop difficile souvent, je ne dirais pas nécessairement juste de l'expliquer, mais comme de confronter l'idée reçue que si on met de l'argent dans un événement, si on n'en mettait pas, l'événement n'aurait pas lieu. Tu sais, comme mettons le PGA à Montréal qui a lieu en fin de semaine, le tournoi des présidents, je pense que c'est 6,5 millions de dollars qui ont été mis dans cet événement-là, puis il y a beaucoup de personnes qui défendent la subvention en disant oui, mais ça amène des retombées de plus de 70 voire 80 millions de dollars en fin de semaine. Une chance qu'on a cette subvention-là, on la rentabilise. La réalité, c'est que cette subvention-là aurait pu facilement être remplacée par d'autres modes de financement moins coûteux par les contribuables, et sans que ça coûte en fait de l'argent aux contribuables, et l'événement aurait pu avoir lieu quand même. Quand on a des retombées économiques aussi importantes, la subvention n'est pas nécessaire ou elle devrait être carrément même non considérée. Donc, c'est malheureux, mais au Québec, on a encore cette façon de faire où est-ce qu'on s'attend à ce que les retombées apparaissent si on met une subvention. Je pense que le meilleur exemple, c'est le Stade olympique de Montréal. En février dernier, on disait on va mettre 1 milliard de dollars dans le nouveau toit du Stade olympique de Montréal. Inquiétez-vous pas, ça va créer des retombées économiques majeures. 1,5 milliard sur 10 ans, ça va tripler les événements, puis tout va bien aller. Il va même avoir des événements sportifs. Sauf que finalement, quand on demande au ministère de nous relâcher les chiffres, de nous donner les fameuses projections économiques, ils n'en ont pas. Carrément, ils n'ont jamais produit ces études économiques. Donc, des fois, on nous fournit des chiffres aléatoires en disant « voici des retombées économiques », mais c'est impossible réellement à saisir et c'est tellement imprécis des fois qu'on peut même pas vraiment prendre au sérieux des projections. Donc, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le coût réel, lui, celui de la subvention des contribuables, l'impact budgétaire, lui, est percevable. Mais est-ce que la retombée économique l'est? Ça, c'est une autre question.
Exact. Hey, Nicolas, pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable.ca. Je te souhaite de passer une belle semaine. Lâche pas, mon ami, puis on se reparle la semaine prochaine.
Ben, vous aussi, à très bientôt.
Salut! Bye-bye! Est-ce qu'on a plus de détails sur ce qui se passe à Sainte-Brigitte-de-Laval? Là, moi, j'ai des chums qui m'écrivent présentement par Messenger, puis j'ai des gens qui m'écrivent par texto comme quoi énormément de véhicules de la Sûreté du Québec et de la police municipale de Québec qui sont en direction de Sainte-Brigitte-de-Laval. Et là, il y aurait le genre de GTI là, qui aurait monté dans les dernières minutes.
On a des textos depuis le début de l'émission là-dessus. Ce qu'on avait, c'est au moins 6 voitures de la Sûreté du Québec de la part des auditeurs, effectivement, la police municipale qui était sur place. On avait aussi information comme quoi une ambulance était en retrait dans ces circonstances. Immense périmètre de sécurité qui avait été monté, c'est sur la rue Kildare. Beaucoup d'informations d'auditeurs. Quand j'ai appelé à la Sûreté du Québec, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on était en intervention, qu'on ne pouvait pas donner énormément d'informations. Si je lis entre les lignes, par contre, de la conversation que j'ai eue, pour avoir eu beaucoup de communications médias par le passé, je te dirais qu'il y a peut-être une histoire de quelqu'un de barricadé dans une maison. Donc, on ne craint pas pour la vie des gens, mais on évacue pour l'intervention autour. C'est aussi ce qu'on précise dans des textos comme quoi il y aurait une maison qui serait plus